Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous hebdomadaire.
Tonnerre de Brecht, votre émission théâtrale. Salut Léa.
Salut Martin. L'inattendu avait déjà reçu Mathilde et Michael. Cette semaine, nous sommes en belle compagnie de Sophie et Romain, deux autres membres du collectif Déter. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Romain nous rejoindra pour la seconde partie de l'émission. Mais avant d'en savoir plus sur Sophie, quelques actus.
Depuis hier et ce jusqu'au 11 avril, vous pourrez retrouver le festival Accor en ligne sur son site. Ce festival Poitevin nous donne rendez-vous tous les ans pour une programmation de danse et cette année, contrainte sanitaire oblige, le rendez-vous est pris en ligne. Alors vous pourrez retrouver ces décaptations de spectacles comme 22 castors front contre front, trois créations réunies en une seule pour ce festival et dansées par les étudiants de l'Université de Poitiers, mais aussi des films, dont 7 sélectionnés sur la troisième scène, la plateforme digitale de l'Opéra National de Paris, et encore des échauffements encadrés par les artistes du festival. À ne pas manquer, et c'est sur le site du festival Accor.
Le 19 mars dernier sortait dans toutes les bonnes librairies le livre « L'étonnant pouvoir du trac et autres effets secondaires » de Romain Le Saffre, plus connu sous le nom de Château Brutal du groupe Hernadette. L'auteur a interviewé une cinquantaine de personnes de tous bords professionnels confondus, allant du musicien au médecin, afin de les interroger sur cette notion nébuleuse qu'est le trac. À travers toutes ses recherches, Romain Le Saffre tente de nous expliquer comment reconnaître et maîtriser notre trac, non sans humour. Vous pouvez donc retrouver toutes ces astuces dans son livre « L'étonnant pouvoir du trac et autres effets secondaires » sorti depuis le 19 mars.
Et Pixel, le spectacle de Mourad Merzouki, Adrien M et Claire B, est disponible sur arte.tv. L'occasion de voir sur scène le travail d'Adrien M et Claire B que vous avez peut-être vu au Champ Libre lors de leur dernière exposition au printemps dernier. Un travail entre le corps et les technologies avec une réelle réponse entre les deux. C'est donc sur arte.tv à regarder jusqu'en décembre. Vous avez le temps du coup.
Et avant de retrouver nos invités, on fait une première pause musicale avec Elton John et I'm Still Standing.
Lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
Once I never could have hoped to win, you're stopping down the road to leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without.
Yeah, yeah, yeah.
Vous êtes toujours dans Tonnerre de Brecht sur Syllab. Nous allons retrouver Léa et Sophie tout de suite.
Alors Sophie Gall, c'est vous qui avez choisi cette chanson. Alors oui. Déjà, vous faites partie de la compagnie La Petite Épine. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson ?
J'ai choisi cette chanson parce que je l'ai entendue ce matin sous la douche. Et j'ai trouvé qu'elle mettait de bonne humeur et qu'elle était encourageante, en fait. Voilà.
Okay. Et du coup, vous êtes passée par la formation d'art du spectacle à l'université Rennes 2, une formation qui est très théorique. Comment est-ce que vous avez intégré la pratique dans votre cursus universitaire ? Et comment est-ce que vous vous êtes tournée vers la pratique ?
Alors la pratique, j'en faisais parallèlement à mes études universitaires, dans des ateliers, des compagnies amateurs, le théâtre étudiant aussi à la Rennes Théâtre. Mmh. Et voilà, mais c'était arrivé aussi avant, en même temps en fait que la théorie. Moi, j'ai commencé la pratique qui s'est tout de suite accompagnée de théorie, parce que j'ai commencé le théâtre au lycée, en fait, en option théâtre. Voilà, donc ça n'a jamais été juste un pur loisir. Ça s'est tout de suite accompagné de théorie, d'études et de recherches.
Très bien. Vous avez écrit, mis en scène et joué un seul en scène féministe, intitulé « L'exemple de Paula ». Pourquoi avez-vous choisi de monter ce seul en scène ?
Oula ! c'était il y a longtemps. Pourquoi j'avais choisi ça ? Parce que j'avais envie de jouer. J'avais envie de défendre mes idées sur scène, après avoir défendu des idées de d'autres personnes, des textes de d'autres personnes. Et j'avais envie d'y mêler un peu tout mon univers, que ce soit par les musiques, les images et les idées que j'avais envie de défendre.
Mais du coup, vous avez aussi monté Les Filles comme toi, que vous avez mis en scène. Donc vous l'avez écrit et mis en scène. Et j'ai l'impression que ça se retrouve énormément dans vos projets d'écrire et de mettre en scène vos propres textes. Pourquoi est-ce que les deux sont forcément inséparables maintenant ?
Oui. Oui et non, parce que je pense que je pourrais, ça m'arrive encore de lire des textes, pas forcément des textes de théâtre, je lis pas beaucoup de romans et de rencontrer une écriture et une histoire qui me touche et que j'ai envie de raconter. Mais là, pour l'instant, je pense que j'en suis pas là, j'ai plus envie d'écrire et de porter mon regard sur scène.
Vous travaillez énormément avec l'improvisation. Comment ça vous nourrit votre démarche de comédienne, votre direction d'actrice et d'acteur ? Cette impro-là, cette forme-là.
Mais d'actrice même, parce que vous jouez qu'avec des filles, a priori.
Oui, alors ça dépend. Parce que je fais du théâtre d'improvisation avec... Voilà, des matchs où là, on n'a rien écrit avant. Mais après, dans le travail de création, j'utilise aussi l'improvisation. Pour Les Filles comme toi, par exemple, on l'a fait un peu plus tard, sur la fin. Mais là, sur le nouveau spectacle, j'étais en résidence il n'y a pas longtemps. Et comme c'était notre première résidence, on a fait aussi beaucoup d'improvisation, ce qui nous aide à... dessiner le personnage, à clarifier les relations entre les personnages. On va par exemple se donner une situation de ce qui s'est passé avant entre les personnages ou de ce qui pourrait se passer plus tard. Voilà.
Et est-ce que du coup, avec l'improvisation là, vous faites de l'écriture de plateau aussi ou pas du tout ?
Alors en fait, oui, beaucoup. Parce que ce soit Les Filles comme toi ou Charlie... J'ai écrit au fur et à mesure, en parallèle du travail de plateau. J'ai été un peu plus rapide sur Charlie que pour Les Filles comme toi, parce que des filles comme toi, on a beaucoup travaillé au plateau. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre ce que je retravaillais dans le texte et ce qui, au bout d'un moment, était aussi un peu épuisant pour les comédiennes. Et là, ça a été beaucoup moins le cas. Mais moi, j'ai encore énormément de mal à écrire et à savoir si ce que j'ai écrit, ça va vraiment fonctionner au plateau ou pas.
Ok.
Et du coup, vous êtes dans la compagnie La Petite Épine, vous en êtes l'unique membre. Alors, on va faire un peu d'administratif, mais qu'est-ce que ça permet pour une jeune comédienne ou un jeune comédien, du coup, d'avoir sa propre compagnie ?
Je pense que c'est une grande liberté, parce que je peux faire mes propres choix. C'est parfois compliqué de se mettre d'accord avec d'autres personnes. Donc ça a aussi des inconvénients, hein. C'est beaucoup plus fatigant, ça demande beaucoup plus d'énergie. Mais je m'entoure aussi d'autres personnes pour travailler, mais les décisions, c'est quand même plutôt moi qui les prends.
Ok, et du coup vous représentez le collectif Déter aujourd'hui. Mm-hmm. Donc Déter, droit pour l'ensemble du théâtre émergent rennais. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous réunir donc votre compagnie et du coup d'autres compagnies de créer ce collectif?
Alors c'est pour le théâtre émergent à Rennes, je pense que c'est vraiment important. Et ce qui est vraiment chouette à Déter, enfin moi personnellement ce que j'y ai trouvé, c'est d'être entourée, comme tu le disais, je suis toute seule dans ma compagnie et on a besoin d'être les uns avec les autres, de pouvoir se sentir moins seul, des fois juste de partager une expérience. On se donne des conseils et là, on avance ensemble vers un but qui est de parler, de donner plus de visibilité aux compagnies émergentes à Rennes.
Parce qu'il y a quand même un berceau de compagnies assez énorme à Rennes, enfin dans le bassin rennais en tout cas. Et c'est ce qui se disait dans l'article que j'avais lu dans Ouest France, que déjà avant la crise du Covid, là, c'était très difficile pour les troupes émergentes et encore pire maintenant. Du coup, comment vous l'avez ressenti, vous, cette différence entre avant et après la crise, et comment on essaye de s'en sortir quand vous dites on se donne des conseils, etc. Concrètement, vous parlez de quoi pendant les réunions de Déter, etc.
Déter, ça s'organise par groupe de travail, donc des réunions où on est tous là, en fait, on en fait assez peu. On a plusieurs travaux en cours et donc on gère pas vraiment pour en tout cas aider les compagnies émergentes. Il y a plusieurs choses qui sont mises en place et il y en a qui, enfin c'est plus un travail sûrement de longue haleine qui va être très très long. On n'a pas une solution pour tout de suite en fait. Mmh. Parce qu'aussi, ce n'est pas que de notre pouvoir, ça ne nous appartient pas totalement, mais on met tout en place pour alerter sur la situation. Donc, par exemple, on est en train d'organiser une journée d'études sur l'émergence, parce que c'est une notion qui est quand même assez floue pour pas mal de gens, même nous. On va faire un diagnostic sur le théâtre émergent à Rennes. On essaie de mettre en place une sorte de partenariat avec d'autres compagnies en proposant des premières parties. Mais ça, je pense que Romain vous en parlera peut-être plus.
D'accord.
Parce qu'il est plus sur ce chantier-là.
Et c'est vrai que du coup, y a une question qui me vient là, en écoutant cette notion d'émergence, etc. Souvent, quand y a des gens qui reçoivent des prix, genre je pense au réalisateur Zidi, j'ai oublié son prénom, qui a fait Tout simplement Noir, qui a une quarantaine d'années aujourd'hui et qui est jeune espoir. Et en fait, il a déjà fait 5 films avant. À partir de quand, déjà, on se dit plus jeune metteuse en scène ou jeune metteur en scène ?
Ça va être très difficile que je réponde à cette question puisque c'est tout l'objet de notre journée d'études. Okay. On prévoit toute une journée pour essayer de donner des pistes de réponse à cette question. Mais enfin voilà, moi par exemple, j'ai 29 ans, j'en suis à mon 2e, 3e spectacle et je me considère totalement émergente, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Et puis en plus, il y a 2-3 spectacles, comme vous avez dit, mais derrière, vous avez commencé le théâtre au lycée, donc il y a quand même de l'expérience. Quoi, ça
oui, oui, puis j'ai travaillé avec d'autres compagnies avant de fonder ma compagnie.
Voilà. Donc on n'est plus si jeune que... Enfin non, mais je veux dire, oui. J'ai 29 ans aussi, quoi, c'est pour ça.
Mais du coup, vous faites aussi... des terres, c'est pas seulement se mobiliser pour ou contre quelque chose, c'est aussi réfléchir à des questions qui vous concernent directement. Et du coup, par quoi ça vous parliez donc d'une table ronde, non? Autour de la notion d'émergence.
On va faire une journée d'études.
Journée d'études, voilà, pardon. Y a d'autres sujets comme ça sur lesquels vous travaillez à définir, faire de la recherche dessus?
Je dirais, pour ce qui est de la recherche, on a aussi le diagnostic, qui est là une étude de terrain, qui avance aussi un peu avec la journée d'études. Puisqu'on va présenter un résultat de ce diagnostic lors de la journée d'études, qui sera d'ailleurs le 14 octobre 2021. J'ai eu un petit doute sur la date. C'est ça.
Et les filles comme toi, pour en revenir au spectacle que vous avez créé, démontent les stéréotypes de genre. Et vous êtes actuellement en train de monter un spectacle qui s'appelle Charlie, à destination des plus jeunes. Mmh. Et selon vous, quelle est l'importance de la culture pour la construction de l'individu?
Là, waouh. Vu mes thèmes de prédilection, c'est sûr que c'est quelque chose d'important, d'après moi. C'est aussi apporter une autre vision que celle que nous apporte notre famille ou l'école. Voilà. Je ne sais pas, c'est difficile d'y répondre juste en rapidement.
Et du coup, des terres, c'est aussi un moyen de se mobiliser, donc pas seulement vis-à-vis des conséquences du Covid sur la production théâtrale, oui. Mais aussi sur d'autres problématiques, et notamment la problématique de l'inclusion. Et j'ai vu que la question de la représentation féminine et de la parité faisait partie des axes avancés par des terres. Est-ce que vous pouvez peut-être, en tant qu'artiste féminine qui travaille beaucoup avec des femmes et sur des spectacle relatif à l'identité et au genre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un peu?
Oui. Après, j'ai plus exactement tout en tête, mais dans la manière dont Déter s'organise, dans les manières de travailler, il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies pour laisser une place à tout le monde. Donc, en termes de démocratie, c'est assez intéressant ce fonctionnement. Et par exemple, là, on est deux. Il fallait que deux personnes viennent. On a fait attention à ce qu'il y ait un homme et une femme. On fait attention à ça. Après, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes à des terres. Donc, je crois qu'on s'est dit que si à un moment, on n'arrivait pas à ce qu'il y ait un homme et une femme... Ok, il pouvait y avoir deux femmes, mais deux hommes, ça, c'était un peu compliqué, puisqu'il y en a très peu, en fait.
Ce ne serait pas représentatif.
Ouais.
Eh bien, merci, Sophie, pour toutes ces informations. Du coup, avant de discuter davantage des terres avec Romain Brosseau, on s'écoute tout de suite sur sa recommandation, Because the Night, de Patti Smith.
Tonight.
C'était Patti Smith et son morceau Because the Night. Nous sommes en compagnie de Romain Brosseau et c'est vous qui avez choisi ce morceau. Pour commencer alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce morceau ?
Je l'ai choisi sur vos recommandations, enfin vos interrogations sur une chanson qui pourrait être en lien avec une création à venir. Et moi je travaille sur un spectacle qui s'appelle Extase et je trouve que la hargne et la façon de chanter de Patti Smith et cet hymne à l'amour nocturne entre deux amants, on est en plein dans la problématique et je pense que c'est une chanson qui va être inspirante, voire même être dans le spectacle.
Ah ouais, très bien. Et du coup, avant de parler de ce spectacle, on en reparlera un peu, j'espère. Ouais. On va reprendre du tout début. Alors, vous avez été au Conservatoire de Bordeaux, puis vous avez intégré le TNB en 2009 sous la direction de Stanislas Nordet. Et avant ça, quand est-ce que vous avez su que vous vouliez être comédien ?
Et comment ?
Avant tout ça, j'ai commencé à 7 ans. Une troupe amateur, dans ma troupe rurale, là où je suis né, en Deux-Sèvres, à Combran, voilà. Et c'était le seul truc qui vraiment me motivait, me donnait envie. Étant ado, c'était hyper important d'avoir un truc motivant, passionnant. Et voilà, il y a un moment, j'ai compris que c'était un métier. Je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas. Et ça s'est enchaîné comme ça, Bordeaux, Rennes, jusqu'à la sortie de l'école de Rennes, où on devient professionnel, du coup.
Et du coup, vous êtes assez polyvalent, vous jouez au théâtre, vous jouez aussi au cinéma, mais aussi dans du théâtre radiophonique. Quel intérêt trouvez-vous à multiplier toutes ces formes de jeu et qu'est-ce que ça apporte à votre parcours de comédien ?
Ce qui est super, dans ce métier d'interprète, déjà, c'est qu'on change de projet tout le temps. Voilà, un projet dure entre 5 dates et plusieurs années. Et à chaque fois, c'est des nouvelles équipes, c'est des nouvelles histoires à raconter. Et en plus, quand on multiplie les moyens de les raconter, que ce soit la radio, le cinéma et le théâtre, c'est pas du tout la même façon de travailler quand on interprète. Donc on n'est pas forcément obligé de tout faire d'ailleurs, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise ou bon dans tout. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que c'est différents moyens de travailler et d'interpréter des choses, d'être au service de quelqu'un ou d'une histoire. Je trouve ça très complémentaire et épanouissant, en tout cas dans ma pratique.
Et est-ce que quand on est metteur en scène et aussi comédien, ça repose quand on est comédien ou pas ?
Carrément. Voilà, c'est tout. On est tellement content d'avoir juste à être comédien au service d'eux. On se délaisse énormément. On sait que derrière, il y a tout un travail hyper important, porter un projet seul, ça peut être très 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 lourd, hein, mais bon, après on l'a décidé aussi, donc faut assumer. Mais quand on est juste interprète, ouais, c'est assez, assez agréable.
Vous avez travaillé avec Lumière d'août, le collectif Fièvre, et vous avez décidé en 2019 de monter votre propre collectif, le groupe Odyssée au pluriel.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que cela permet du coup ? Un peu la même question que Sophie.
Bah, ça permet beaucoup de choses. Alors moi, quand je l'ai fait avec Marie Thomas à l'origine, c'était, on arrivait tous les deux à un moment où on avait envie de créer nos propres histoires, notre propre façon de travailler, d'inventer. Hein. Voilà, une cellule comme ça de travail et de création. Puis ensuite, Flora Diguet nous a rejoint assez vite puisqu'on était dans les mêmes démarches. On s'est rencontrés, Marie, je l'ai rencontrée à l'école et Flora a fait la même école avant, on s'est rencontrés ensuite au plateau. Et on a vite senti qu'on était tous les trois sur la même longueur d'onde. Et en tout cas, moi, je n'aurais jamais monté une compagnie tout seul. Mmh. Et je crois qu'elle non plus. Et c'est pas juste pour se reposer et être un peu plus tranquille, c'est aussi parce que c'est enrichissant d'être plusieurs. Et on voulait justement parer à cette solitude de l'artiste porteur ou porteuse de projet pour s'accompagner tous les trois. Et ça fait 2 ans et en tout cas, jusqu'ici, on ne regrette pas du tout.
Et pourquoi avoir fait le choix de rester à Rennes, du coup ?
Bah parce qu'on habite à Rennes et qu'on travaille à Rennes et qu'on est très bien à Rennes pour l'instant.
Et du coup, vous animez aussi des ateliers de théâtre pour enfants, mais aussi pour les détenus en milieu carcéral, j'ai vu ça.
Oui, ça m'est arrivé, ouais.
Et du coup, d'où vient cette volonté d'élargir un peu les murs du théâtre, quoi, et d'aller le mettre là où on le suspecterait pas forcément ?
Bah, je pense que c'est important, en tout cas, le théâtre, c'est un moyen d'expression. Donc je pense que c'est important d'amener ce rapport au corps, ce rapport aux émotions, ce rapport à la langue. Le théâtre est un bon vecteur pour ça, pour travailler ces choses-là. Donc c'est important, les étudiants, les lycéens ou les plus jeunes, moi je travaille surtout avec des lycéens, c'est une façon de s'épanouir et puis d'être confronté à une œuvre artistique. Concrètement, en interprétant, en se mettant au service, enfin vraiment en travaillant avec son corps. Donc moi je vois beaucoup de jeunes qui s'épanouissent totalement comme j'ai pu le faire, mais grâce au théâtre, qui l'école ou le système scolaire c'est pas forcément en échec, mais en tout cas c'est une autre façon de se développer, de s'épanouir. Donc le théâtre vient amener quelque chose d'assez puissant. Et puis d'élargir encore, bah parce que moi j'ai fait des ateliers de théâtre et d'écriture en milieu carcéral. Et là encore, c'est une façon de s'exprimer, une façon de porter un message. Et j'ai vu dans ce genre de situation, par exemple à la prison des femmes à Rennes, j'ai vu des femmes qui avaient clairement un message à dire et crier sur une scène de théâtre quand on est dans une prison. Ça représente pas la même chose que quand on est dans le monde, on va dire, libre. Voilà, c'est des moments. Pour moi, c'est du politique, tout ça, vraiment.
Et ben, pour continuer à parler politique.
Ah, oh.
Et ben, pourquoi vous avez décidé de rejoindre le mouvement d'Ether, qui, on le rappelle, veut dire droit pour l'ensemble du théâtre émergent rennais?
Eh ben, c'était suite à la fin de l'aventure de la ferme de Quincé, Ouraïlis. Et c'est vrai qu'on était plusieurs à l'appel en fait d'Ouraïlis. Ils nous ont invités à prendre le relais, tout simplement. Déjà constater, voir si il y avait toujours besoin de ça. On a constaté que très vite, il fallait un soutien encore à l'émergence. Et puis on a remarqué qu'en fait, on se connaissait pas tous et toutes, mais quand même, à force de se rassembler, de se connaître, on a constitué un groupe. Et oui, c'est important, l'émergence à Rennes, il n'y a pas rien. Il y a des choses, mais en tout cas, il y a un an, on a commencé à monter ce mouvement, à créer des terres qui, en fait, est la suite vraiment administrativement d'Ouraïlis. Mmh. Et on constate qu'il y a du travail. Alors, en plus, il y a la crise là, depuis un an. Donc, on a beaucoup de travail. On a beaucoup de choses à faire, justement, en représentation politique. Et aussi en action très très concrète.
Et Ouraïlis, pardon, on le rappelle, c'était juste un temps fort dans l'année pour de représentation. Non, il n'y avait pas que ça du coup.
Non, Ouraïlis, c'était la compagnie, enfin l'association. Et vous parlez de Vacarme, je pense, qui était le festival du théâtre émergent rennais, qui avait lieu tous les 2 ans.
D'accord. Et est-ce que du coup, c'est un projet un peu, quand reviendra le temps, on pourra faire des représentations avec des terres, de refaire de vacarme?
Bah, on en a parlé, forcément, ça fait partie des choses, qui, vu qu'elles ont existé, on se dit pourquoi pas le refaire. Mais clairement, on s'est dit que bah, là, ce n'était pas du tout la priorité, puisque on ne peut pas jouer. Donc on va attendre un peu, et puis quand ce sera possible, on se reposera la question.
Et du coup, Sophie nous disait que vous vous occupiez des premières parties. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les actions concrètes qui sont menées par des terres, du coup ?
Alors, pour l'instant, les premières parties, c'est encore un projet. Mais je peux en parler, on a commencé à bosser là-dessus. En fait, c'est assez simple. Hein. On s'est inspiré des premières parties du milieu musical. Et on s'est dit, pourquoi pas prendre ce processus et le mettre au théâtre. Donc là où on en est pour l'instant, c'est qu'on a rencontré des compagnies conventionnées de Bretagne, qui sont donc un peu, on va dire, au top de la reconnaissance institutionnelle, alors que nous, l'émergence, on est peut-être au tout début, on est peut-être en bas de l'échelle, parce que c'est avec ces compagnies reconnues, programmées, qu'on voudrait travailler, à l'invitation d'une compagnie ou d'un théâtre, en fait, des compagnies émergentes, donc potentiellement des compagnies d'éther, pourraient venir en première partie d'un spectacle dans un théâtre, venir présenter une première partie. Alors ça peut être un spectacle, mais ça peut être aussi une lecture, ça peut être une maquette, ça peut être une proposition. Il y a encore plein de choses à inventer hein, sur la façon dont ça pourrait se faire. Évidemment, le truc le plus compliqué, c'est avec quel argent, parce que tout ça, c'est pour que les gens soient payés, que ce soit du travail reconnu, qu'on fasse ça dans de bonnes conditions. Donc tout ça, c'est un projet, voilà. Mais ce qu'on voudrait, c'est pouvoir mettre ça en place pour permettre, grâce à la solidarité en fait, la solidarité avec les acteurs culturels, que ce soit les lieux, les compagnies reconnues, les compagnies émergentes, qu'on puisse bénéficier de cette solidarité avec des terres et pour les compagnies qui sont au début de leur parcours, pour qu'elles aient une visibilité, qu'elles aient du travail aussi, des dates très concrètement, voilà cette visibilité auprès des professionnels et du public.
Et du coup, dans votre discours, il y a toujours cette question d'émergence par rapport à la journée d'études, etc. Et il y a peut-être un début de réponse avec ce côté compagnie subventionnée, reconnue et tout, enfin...
Voilà. C'est la subvention, c'est une reconnaissance de l'institution, ça c'est sûr. À partir du moment où, si on prend la plus petite échelle, ce serait à l'échelle de la ville, par exemple. Bon, bah voilà, une compagnie qui est subventionnée ou accompagnée par la ville de Rennes, bon, bah, c'est un début, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance d'un travail, d'une valeur à soutenir. Donc effectivement, la subvention est une reconnaissance. Voilà, après la reconnaissance, ça peut être de plein de manières, elle peut être artistique, elle peut être... Il y a des gens qui... Je connais pas beaucoup de compagnies qui arrivent à bosser et à travailler régulièrement sans subvention. En tout cas, dans le domaine du théâtre public, heureusement qu'il y a ces subventions, parce que c'est comme ça que le théâtre peut exister. Mais c'est une bonne question. Est-ce que la reconnaissance se joue seulement par les tutelles de l'État ? J'espère qu'il n'y a pas que ça.
Ouais. Mais du coup, en plus, vous avez connu un peu le monde du TNB, qui est un peu l'emblème du théâtre conventionné à Rennes. Vous en feriez quelle différence et qu'est-ce qui... Ouais.
Le TNB, oui, c'est le théâtre public, c'est un CDN, c'est une grosse maison. Alors évidemment, il se passe plein de choses. Je pense que ces lieux-là doivent être des lieux qui prennent des risques. Parce que justement, c'est le théâtre public, c'est ça, c'est ne pas forcément. C'est la question de l'offre et la demande. Si un théâtre public offre au public ce qu'il demande, je pense que c'est pas la mission du théâtre public. La mission du théâtre public, c'est de questionner, c'est de déranger, de confronter. Alors, il faut pas tout le temps, je pense, désarçonner les gens. Il faut aussi que les gens soient émerveillés. Il faut aussi que les gens prennent du plaisir. Mais on n'est pas dans le divertissement. Je pense que le théâtre public, c'est vraiment pas le lieu du divertissement. Oui, j'ai connu, j'ai passé 3 ans, j'ai été dans le milieu de la subvention. Je veux dire, j'ai été subventionné pendant 3 ans en tant qu'étudiant. À d'autres reprises, j'ai été subventionné aussi par le TNB parce que je sortais de l'école sur certains projets. Et donc, c'est bien. On est une centaine à peu près à sortir des écoles publiques par an. ce qui est beaucoup par rapport au travail qu'il y a. Et je ne parle même pas des sortants, ceux qui sont sortis l'année dernière ou qui vont sortir cette année, pour qui ça va être évidemment très 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 compliqué. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose auquel on nous prépare forcément, que le côté subvention, comment faire du théâtre, surtout quand on décide de créer ses propres projets, on n'est pas forcément prêt à ça quand on sort de ces écoles. Ça dépend, je pense que ça évolue un peu.
Et le fait de faire des ateliers aussi dans les prisons, c'est un peu une mission de service public pour vous ?
Alors oui, je pense que oui. Et c'est vrai qu'il y a... je travaillais avec, j'échangeais avec la compagnie La Morsure, qui est une compagnie d'improvisation et de performance à Rennes. Mmh. Et parce que je tiens à citer, parce que c'est pas mon idée, mais Marie Parent, pour ne citer qu'elle, on échangeait là-dessus. Et par exemple, il pourrait y avoir dans l'intermittence, les heures à faire, il pourrait y avoir comme des heures d'intérêt généraux, parce qu'on est effectivement, on a cette mission-là quand on reçoit l'argent de l'État. On doit aussi à un moment le rendre. Alors bon, voilà, il ne faut pas obliger, parce que tout le monde n'est pas pédagogue, il ne faut surtout pas mettre des gens qui ne sont pas pédagogues dans les prisons, face aux jeunes, ou même avec des adultes, surtout pas. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette mission-là, je trouve. Et moi, en tout cas, elle me plaît et elle me passionne.
Ouais, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Romain, d'avoir répondu à nos questions. Et merci aussi à Sophie Gall et merci à vous deux d'être venus parler du collectif des terres et beaucoup de vous aussi. C'était très intéressant. Et on va suivre vos actions de très près et on espère aussi avoir de bonnes nouvelles pour la culture très bientôt.
Enfin, Brest, votre émission se termine sur cette note d'espoir.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tonnerre de Brecht.
Et d'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabes.